un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers? Pourquoi a-t-il créé l'homme? L'homme n'est pas le résultat d'un accident ou d'une évolution. Dieu avait un but précis en créant l'homme à son image et à sa ressemblance. L'apôtre Paul déclare « L'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, des enfants engendrés, mais non encore nés de nouveau. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons, dans cette vie bien entendu, avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. L'esprit qui est en l'homme est un composant non physique, qui le différencie des animaux. Cet esprit n'est pas une âme, puisque la Bible nous dit que l'homme est une âme, mais c'est ce composant spirituel qui procure la conscience, l'intelligence, qui permet de raisonner, de prévoir, de méditer, etc. C'est à cet esprit de l'homme que vient se joindre l'Esprit de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a écrit. Car l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le but fondamental de la vie humaine inclut l'union de ces deux esprits, de ces deux composants spirituels, résultant en une nouvelle créature. Ce que l'apôtre Paul explique, c'est que nous sommes des héritiers. Un héritier est destiné à recevoir la possession, l'usage, la jouissance de l'héritage donné ou transmis. Tous les biens, toutes les richesses, toutes les responsabilités. De qui l'homme sera-t-il l'héritier ? L'homme a été créé pour devenir un fils de Dieu, pour entrer dans la famille divine et devenir un Dieu. C'est là le but de la vie humaine. Voilà pourquoi l'homme et l'univers ont été créés. Cette vérité, qui est cependant très simple, est rarement prêchée de nos jours. Dieu est un nom. C'est le nom de famille des êtres éternels qui ont créé, qui ont conçu tout ce qui est spirituel et physique. Tout ce qui est connu, et même inconnu de l'homme. Voilà ce dont nous devons hériter. Lorsque nous entrerons dans la famille divine, nous hériterons alors toutes choses et à jamais. Le fait que Dieu soit une famille étonne beaucoup de gens. Il n'empêche que Dieu est une famille, comme nous allons le voir, et que le but de la création de l'homme est de lui permettre de rejoindre le cercle de cette famille divine, comme l'explique l'apôtre Paul. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », ce qui signifie « Père ». Ce mot exprime le respect, la tendresse et l'affection comme le mot « Papa ». La famille divine comprendra alors un nombre élevé d'individus. En effet, l'apôtre Paul écrit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre ». Pour l'instant, il n'y a que deux êtres dans la famille divine. Il y a Dieu le Père, dont Melchisédek a dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître ou possesseur, propriétaire, du ciel et de la terre ». Il y a aussi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le créateur des cieux et de la terre, celui qui devint Jésus-Christ et qui était le Dieu de l'Ancien Testament. L'apôtre Jean a écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » L'apôtre Paul a écrit, au sujet du peuple d'Israël, libéré du joug égyptien, « Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Il ajouta, « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » La Bible révèle que le but ultime de tout être humain est de devenir un membre de la famille divine. À première vue, ceci peut vous surprendre, mais c'est la réalité. Nous venons de voir que le Créateur de l'univers est celui qui devint le Christ. L'apôtre Jean a écrit que le Christ appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. L'apôtre Paul confirme que le Christ était égal à Dieu. Il a écrit « Nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Par conséquent, quelle que soit la gloire que Dieu le Père a accordée à son Fils, Christ l'accordera à son tour et en temps voulu à l'homme. Il a déclaré avant son arrestation « Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » En d'autres termes, toute personne convertie, vivant en conformité avec la parole de Dieu, aura la même relation avec le Christ, le Dieu créateur, que celui-ci a avec Dieu le Père. Jésus a dit « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. » Le Christ savait ce qu'il faisait et ce qu'il disait. Lorsqu'il accorda cette même gloire à ses disciples et à tous ceux qui suivraient, il a déclaré « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » En créant l'homme, Dieu avait dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Au cours des jours précédant la création de l'homme, Dieu avait établi un grand principe fondamental. Les plantes, les fleurs, les arbres, les oiseaux, les poissons, les animaux vivants, tous devaient se reproduire selon leur espèce, tandis que l'homme, lui, est créé selon l'image et selon la ressemblance de Dieu. On pourrait se demander pourquoi Dieu n'a pas ordonné que l'homme se reproduise lui aussi selon son espèce. C'est parce que le but de la vie humaine ne se limite pas à la reproduction physique selon l'espèce humaine, mais elle va plus loin. Elle implique la reproduction spirituelle selon la famille divine. Voilà le but ultime de la création de l'homme et de la femme. Voilà pourquoi Dieu engendre par son Saint-Esprit ceux qui se repentent et décident de rejeter le péché, la transgression de la loi de leur vie, jusqu'à leur naissance dans la glorieuse famille divine. Les paroles prononcées juste avant la création de l'homme sont très claires. Faisons, nous la famille divine, faisons l'homme à notre image, à l'image de la famille divine, selon notre ressemblance, selon la ressemblance de la famille divine. En créant l'homme et la femme, les deux membres composant cette famille divine avaient l'intention d'ajouter d'autres membres à leur famille. Une précision très importante doit être apportée ici. Il n'est pas question pour l'homme de se trouver sur un pied d'égalité avec Dieu le Père ou avec Jésus-Christ. Dieu le Père est et restera Dieu le Père. Jésus-Christ est et restera Jésus-Christ. Et personne, parmi ceux qui naîtront dans cette famille, personne n'aura jamais la même puissance ou la même autorité que le Très-Haut et le Christ. Non, il deviendra éventuellement membre de cette famille, composé d'un même corps spirituel, ayant le même esprit, accomplissant les mêmes choses et ayant le même mode de vie, participant aux mêmes joies, aux mêmes expériences, aux mêmes activités. Cependant, l'homme gardera sa perception, sa conscience, sa personnalité, son individualité. Voilà pourquoi le Christ a recommandé « Soyez ou devenez parfait comme votre Père Céleste est parfait ». Chacun gardera sa mémoire, ses capacités, ses talents, ses préférences et ses idées. Mais il n'y aura plus de conflit, plus de compétition, parce que la nature humaine aura été éliminée. Chacun générera ses propres idées, ses vues et ses pensées, vaquera à ses activités et prendra ses responsabilités. Lorsque l'homme sera devenu égal à Dieu, c'est-à-dire lorsque l'homme sera devenu divin, lui aussi, lorsqu'il sera devenu héritier de Dieu et co-héritier de Christ, et qu'il sera devenu un en Dieu et en Jésus-Christ, il sera alors membre de cette famille, tout en restant sous l'autorité du Père et de Jésus-Christ. Cependant, il partagera les mêmes qualités de vie que Dieu le Père et Jésus-Christ possèdent actuellement. Par exemple, le Christ a déclaré « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Par conséquent, lorsque l'homme sera devenu un membre de cette famille, il générera à son tour cette vie. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais jamais l'homme ne pourra égaler Dieu le Créateur, tout comme Jésus-Christ, la parole, n'est pas égal à Dieu le Père, car il a déclaré « Le Père est plus grand que moi ». Le Christ vient sous l'autorité du Père. Il est la seconde personne de la famille divine. Bien qu'il y ait unanimité d'avis et de conseils entre eux, il y a et il y aura toujours une hiérarchie. Le Très-Haut restera le Très-Haut. Il aura toujours les commandes en main. L'autorité absolue des deux membres actuels de la famille divine ne sera jamais mise en question, mais ils auront la joie de partager leurs responsabilités, leur vie avec leur descendance, au fur et à mesure que cette famille s'agrandira. On pourrait comparer cette autorité suprême divine à une famille unie qui, de nos jours, vivrait dans le respect, l'amour et posséderait des biens, des terres à gérer. Le patriarche entraîne ses enfants à prendre de plus en plus de responsabilités pour le bien général, pour gérer les biens. Il les laisse prendre des décisions et faire leur expérience tout en surveillant ce qu'ils font, mais il discute avec eux des décisions qu'ils comptent prendre. Plus le temps passe, plus il leur confie des responsabilités administratives ou autres, mais il reste toujours la personne en charge. Il reste celui qui tranchera en fin de compte pour le bien de tout et de tous. Les enfants adultes jouissent de la même qualité de vie que leurs parents, mais ceux-ci garderont toujours la mainmise sur tout. Voilà pourquoi ces enfants viennent régulièrement les trouver pour profiter de leurs conseils et de leurs avis. Ce sont les décisions du patriarche qui l'emporteront. Par la suite, ces enfants auront d'autres enfants et la famille croîtra de plus en plus, toujours sous l'autorité du patriarche qui guidera ses petits-enfants. C'est ce qui se passera au sein de la famille divine. Après avoir été entraîné, nourri spirituellement au cours de cette vie physique, après avoir étudié la parole de Dieu, après l'avoir mise en pratique, l'homme sera à même d'assumer de grandes responsabilités que le Tout-Puissant sera heureux de lui confier. Il pourra bien entendu émettre des suggestions, exprimer ses opinions, et chaque individu aura alors les mêmes rapports avec Dieu le Père pour gérer l'univers entier. Tout comme les fils l'ont avec leur père physique dans les familles unies, ayant un profond respect les uns pour les autres. C'est alors que l'homme connaîtra enfin ce qui a été écrit par le roi David. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Comment serons-nous lorsque nous ferons partie de la famille divine? L'apôtre Paul écrit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il l'a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il connaît en effet que celui par qui et pour qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. C'est à cette même gloire que le Christ veut conduire tous ceux qui se soumettent à Dieu. La Bible nous décrit le Christ dans toute sa gloire. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Voilà quelle sera l'apparence de ceux qui deviendront des dieux, qui entreront dans cette famille glorieuse. Et si vous voulez vous faire une opinion de l'incroyable majesté du trône de Dieu, lisez la description qui en est donnée dans les 1er et 10e chapitres d'Ézéchiel, et lisez ce qui se rapporte à la Nouvelle Jérusalem dans les chapitres 20 et 21 de l'Apocalypse. Je continuerai ce sujet la semaine prochaine.